Bonjour à tous. Et je suis heureux de pouvoir prendre à nouveau la parole devant vous, même si je sais, comme toutes les personnes qui se succèdent ici, que parfois franchir les quelques mètres qui nous amènent au pupitre, c'est comme monter à l'échafaud. On ne sait pas si on va se, et je suis en toute sincérité, se montrer digne de l'honneur qui nous est fait d'apporter la parole de Dieu. Tu parlais de trous, je suis très concerné par ce que tu viens de nous dire, parce que faire une prédication, c'est creuser un trou. On commence par une pelle et on ne sait pas ce qu'on va trouver en dessous, par une pelle, un coup de pelle. Et parfois le trou devient très dur à creuser, on tombe vite sur un rocher, on se dit que c'est une fausse piste. Parfois, on a l'impression de creuser sa propre tombe, parce qu'on dit qu'on ne va pas s'en sortir. Et la prédication de ce matin est un peu dans cet esprit-là. D'habitude, depuis quelques mois, on me donne des thèmes choisis, puisque nous faisons l'évangile de Jean à la suite. Et ça permet d'être finalement cadré, puisqu'on sait de quoi on doit parler, et on sait exactement où on doit creuser. Quand on vous dit « vacances, thème libre », c'est comme si on était devant un champ de plusieurs hectares et on vous dit « t'as une pelle, creuse au bon endroit pour trouver le trésor ». Heureusement, dans ce champ qui est la parole de Dieu, le trésor est partout. Encore faut-il être soi-même capable de le découvrir. Donc jusqu'à ce matin, j'étais très dubitatif sur ma capacité à parler devant vous de la part de Dieu parce que j'étais parti dans beaucoup de trous différents. Et je ne voyais pas quel était le lien qui les unissait tous. Et pourtant, tous ces trous-là m'intéressaient. Et tous ces trous-là, depuis plusieurs semaines, me parlaient et me disaient des choses. Mais je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'ils vous disent quelque chose à vous et comment ils allaient le faire. Et puis ce matin, il y a environ une heure, d'où mon retard, Emmanuel était très inquiet, le président ne me voyait pas arriver. Je crois que que Dieu m'a permis de trouver les différents tunnels qui permettent de réunir tous ces trous-là. Et j'espère être suffisamment clair dans ce que je vais vous expliquer et que ce que je vais vous dire va vous apporter autant que ce que j'ai pu comprendre ce matin. Tout est parti d'un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque, enfin sous la bibliothèque, parce que c'est un livre a priori que plus personne ne lit, mais j'aime bien aller vers les antiquités, qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» Alors, c'est un vieux livre, traduit de l'américain. Alors, je trouvais que l'idée était vraiment riche, forte, parce que ça nous concerne tous, régulièrement dans notre existence, au quotidien. On se dit, mais tiens, face à telle situation, là tout de suite, que ferait Jésus à ma place pour que je fasse pas trop de bêtises? La réponse, elle n'est jamais évidente à trouver et on n'est jamais sûr d'avoir réagi correctement. Donc j'ai lu ce livre. Bon, avec difficulté, parce qu'il est écrit de façon un peu pompier. Alors, ça se passe aux États-Unis, donc dans les années 20. Donc, c'est déjà un monde qui est éloigné de nous. Et dans le style de vie et dans le style d'écriture. En plus, c'est une traduction. Mais qu'importe, le fond était riche. Et en fait, à la fin de ce livre, j'étais très frustré. Parce que je pensais avoir une réponse. Ça m'aurait arrangé. Il n'y avait pas de réponse. Enfin, l'auteur pense avoir apporté une réponse qui n'était pas satisfaisante pour moi et je pense qu'il ne serait pas pour vous, même si elle l'était pour les héros de ce livre-là. Mais par contre, le titre continuait de m'interpeller et quand j'ai su que je prenais la parole aujourd'hui, ceci revenait en écho tout le temps. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ta place, à votre place, à tel moment de l'existence? Un exemple tout simple, il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a fait, à mon avis, beaucoup de mal il y a environ un an et demi, qui n'a pas été honnête avec moi, qui m'a menti, etc. Et cette personne est revenue dans le coin. Et ma première volonté, c'était, je ne veux pas revoir cette personne-là, je lui en veux et j'ai rien à lui dire, je ne vais pas lui casser la figure, mais c'est bon. Et puis, que ferait Jésus à ma place? Je me suis dit, bon, ben, Jésus pardonnerait, comprendrait, oublierait, je ne sais pas. Donc j'ai revu cette personne, bonjour, au revoir, ça va. Donc tout ça, je pense à son étonnement, à elle, cette personne, tout ça s'est passé correctement. Et voilà, donc vous voyez, Je ne dis pas que c'est Jésus qui a agi pour moi, mais je pense que tous dans votre vie, vous avez des moments où vous dites, peut-être que le fait que je sois chrétien m'a permis de ne pas être brutal, de ne pas être méchant, de ne pas être irascible, de ne pas être égoïste, et de mener un tout petit caillou, de mettre un petit caillou sur le chemin de la vie des gens que j'ai rencontrés, que ce ne soit pas un caillou qui fait mal aux pieds, mais un caillou qui permet peut-être de se surélever un peu. Évidemment, aucune prétention dans ce que je viens de dire. Je n'en tire aucune gloire, vous l'imaginez bien. Alors, je me suis dit, que ferait Jésus à ma place? Le meilleur moyen de répondre, peut-être, c'est de voir ce qu'a fait Jésus quand il était là. Comme ça, on pourrait essayer d'en tirer quelques lignes de conduite. En effet, Jésus a été immergé totalement dans la vie des gens, complètement. Il n'était pas à l'écart. Il était là pour les fêtes, pour les repas, pour les moments de détresse, les moments de maladie, pour le travail. Et comment a-t-il réagi à ce moment-là? D'une façon évidemment remarquable, extraordinaire, et qui va à la limite pas tellement nous aider, parce que lui étant Jésus, tous les moments de la vie qu'il rencontre, il n'est pas noyé ou dominé par ces moments-là, mais il les bonifie. Quelques exemples. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans nos existences? On a quelques thèmes principaux quand vous allez, pas nous, mais quand les personnes vont voir des marabouts ou des mages, ils ne leur demandent pas s'ils doivent choisir une couleur verte ou mauve pour leur prochain canapé. Ils demandent des grandes questions sur la famille, la santé, le travail, etc. Jésus a été confronté à toutes ces situations-là. Rapidement, la famille. Quand il était à la fête, par exemple, noces de Cana, pas de souci, lui donne du bonheur et transforme l'eau en vin. Quand on lui apporte des petits-enfants, il les prend, il sait leur parler, il leur donne de la joie. La nourriture, on est souvent inquiet pour la nourriture. Que fait Jésus? Lui, il multiplie. Donc, trois petits pains, quatre petits poissons, il en fait une agape extraordinaire. La santé. Jésus, que fait-il à sa propre place? Il guérit. Il redonne la vue, il fait marcher les boiteux, il guérit toutes sortes de maladies. Le travail. Quand les pauvres pêcheurs jettent le filet et qu'ils ne prennent rien, il arrive, il bonifie ce travail et il fait remonter un filet entier de poissons. Les rapports humains. Quand il est confronté aux rapports humains dans sa vie terrestre, déjà, l'ego qu'il rencontre en face de lui, par exemple ses disciples, il le résout, il leur lave lui-même les pieds. Quand il est face à la haine, les gens, par exemple, qui veulent lapider cette pauvre femme adultère, lui, il trouve les mots pour la sauver. Et la jalousie, quand la femme se met à ses pieds pour lui nettoyer les pieds avec le parfum, vous connaissez cet épisode, il arrive à calmer la jalousie de l'autre femme en disant « Mais laisse tout ça, elle le fait maintenant parce que plus tard, je serai parti. » La nature, qui nous pose problème à nous aussi, on souhaite ne pas être attaqué, ne pas être agressé par orage, tremblement de terre, pluie diluvienne. Lui, pas de souci, il y a une tempête, il la calme. Tout ça pour mettre tout de suite le niveau « Que ferait Jésus à ma place ?» pour montrer que la question est très délicate, parce que nous ne sommes pas Jésus. Donc lui, quand il est dans ces situations-là, il sait comment les résoudre. On peut continuer. L'injustice, on est confronté à l'injustice. Lui, la plus grande injustice, il a été crucifié. Que fait-il? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le larron qui l'insulte, pas de souci, il ne lui répond pas avec des paroles dures. Au contraire, il fait répondre par l'autre larron une parole d'apaisement. Même l'argent, il arrive à se dépatouiller de ce problème-là. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il ne condamne pas le jeune homme riche. Il lui donne un conseil qu'il ne suit pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il lui jette la pierre. Et enfin, évidemment, la mort, qui est notre préoccupation première à un moment ou l'autre, lui, soit il ressuscite certaines personnes qui sont tombées derrière les portes de la mort, soit évidemment lui-même en revient et ressuscite. Donc nous voyons que ferait Jésus à ma place ? Beaucoup mieux que moi, puisque lui, il est Jésus et que je ne le suis pas. Donc c'est en même temps une bonne question et en même temps une question à laquelle on a beaucoup de difficultés à répondre parce que nous n'avons pas les attributs de Jésus, même si nous sommes ses enfants. Donc je me suis dit, donc ça c'était la fin de mon premier trou. La question était intéressante, mais j'arrivais à un cul-de-sac. Donc j'ai creusé un deuxième trou et là je me suis demandé, mais puisqu'on n'arrive pas à la cheville de Jésus, on est bien d'accord, il a bien laissé une indication pour dire, essayez de, peut-être de suivre l'exemple de quelqu'un qui est comme vous, un être humain, et qui sera plus à même de vous aider dans les moments de la vie quotidienne pour résoudre des questions toutes simples de ce que vous pourriez faire pour m'être fidèle. Et là, j'ai trouvé une réponse dans... Alors, je ne vais pas lire beaucoup de textes aujourd'hui, quoique, mais pour le début, pas trop. Là, par contre, je vais le lire, c'est évidemment... Jean-Baptiste, dans Luc 7, 28, donc tout le monde connaît Jean-Baptiste, je ne vais pas revenir sur lui, même si je le ferai un peu plus tard, plus précisément. Que dit Jésus de Jean-Baptiste au verset 28 du chapitre 7 ? Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Je crois que c'est la seule parole de Jésus où il donne à un être humain une telle valeur. Tous les autres, il les reprend gentiment, parfois plus durement, mais jamais il les met sur ce petit piédestal. Il n'en est point de plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme. Donc je me suis dit, très bien, puisque Jésus dit de Jean-Baptiste, comme Jacques Chirac disait de Alain Juppé, il est le meilleur d'entre vous, essayons de voir si Jean-Baptiste peut nous donner un exemple pour que ferait Jésus à ma place. Alors, pour ça, on peut lire je ne vais pas le lire parce que ça serait trop long. Je vous fais confiance. Vous connaissez tous l'histoire de Jean-Baptiste. Donc, il prêche au bord du Jourdain. Comment est-il vêtu ? Il est vêtu de poils de chameau, il a une ceinture de cuir, il se nourrit que de sauterelles et de miel sauvage. Il est peu conciliant, puisque pour les gens qui viennent le voir, les premiers mots qu'il a pour eux, c'est « race de vipère ». Il fait de la prison à la fin de sa vie. Et enfin, il finit avec la tête sur un plateau. Donc, vous verrez ça en Matthieu et dans les différents versets de Matthieu, mais je préfère garder du temps pour la suite, car ceci, je sais que vous le connaissez. Tout ça pour dire que l'exemple que Jésus nous met en avant en disant « Lui est le plus grand des hommes », ce n'est pas très, comment dire, ce n'est pas très glamour. Peau de bête, ceinture de cuir, sauterelle, miel sauvage, vit dans le désert. Il a avec les gens un rapport social extrêmement tendu et virulent. Et ensuite, en plus, il est emprisonné et on lui coupe la tête. Donc, ça, je ne doute pas que ça soit un grand et un saint homme, évidemment. Mais de là à être en capacité de le suivre et d'en tirer des leçons... Quand je veux répondre à cette question, je ne me vois pas insulter les gens quand ils viennent me demander quelque chose. Je ne me vois pas me retirer en haut du plateau de Cossol avec une simple tunique et des sandales et me nourrir des châtaignes, moi qui aime tant le foie gras. Donc, je ne suis pas d'accord et je vous mets au défi tous d'être à peu près comme moi par rapport à cela. Essayons pourtant, puisqu'il dit que c'est le plus grand parmi ceux nés d'une femme, d'essayer de voir ce qu'on peut tirer comme leçon symbolique de cette existence. Bon, d'abord, évidemment, il y a le renoncement à lui-même. Désert, pauvreté, solitude. Ensuite, il y a du courage dans sa prédication, dans sa manière de s'affirmer, d'affirmer sa foi face aux pharisiens, face à Hérode, puisqu'il aurait très bien pu être gracié par Hérode s'il avait arrêté de lui reprocher le mariage avec sa belle-sœur. Il est obéissant envers Dieu, puisqu'il, quand Jésus lui dit « Tu dois me baptiser, même si tu penses que tu n'en es pas digne, fais-le », il le fait. Il est humble quand il dit « Je ne suis même pas digne de lacer ses sandales et c'est lui qui vient à moi ». Et enfin, il est plein de zèle et d'énergie et de joie pour Dieu. Ça, par contre, j'aimerais vous le lire, parce que c'est un verset qu'on lit plus rarement, en Jean chapitre 5, verset 35. Il est dit « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Sommes-nous des lampes qui brûlent et qui luisent pour être vus de l'extérieur par les gens qui nous entourent? Je l'espère. Voilà donc ce qu'on peut tirer. Vous voyez, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Renoncement à soi-même, courage, obéissance envers son Dieu, humilité, zèle. Enfin, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est un très très beau programme. Mais je ne vous apprends rien en disant cela. Et c'est quelque chose que nous savons et que nous essayons de mettre en avant dans nos rapports avec les autres et dans notre rapport au monde tel qu'il nous est posé quand cette question nous interpelle. C'était mon deuxième trou. Mais je n'étais pas encore satisfait, comme je vois que vous ne l'êtes pas. Vous dites, il y a forcément quelque chose, un trésor comme le bois qui était caché au fond qui pourra nous permettre de nous chauffer cet hiver. Alors, une chose qui m'a, en creusant, j'ai vu dans Jean, toujours, 10:41, une chose étonnante que je n'avais pas remarqué. Donc, chapitre 10, verset 41, il est dit « Beaucoup de gens vinrent à lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et il disait « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Il n'a fait aucun miracle. C'est curieux. Et ça le rapproche un peu de moi. Parce que moi, évidemment, les miracles, même si je sais que nous avons tous le pouvoir de sauver des montagnes, c'est plus difficile à mettre en place, peut-être manque de foi, je ne sais pas. Mais je peux rarement me targuer et me dire, ben là, j'ai fait un miracle, mais je n'en parle pas parce que... Voilà. Et Jean le Baptiste, quand même, lui n'a pas fait de miracle. Et là, je me suis dit, peut-être, c'est un petit bout de bois au fond de mon second trou qui me permet de me dire que cette humilité, ce courage, cette obéissance, cette humilité et ce zèle, je peux peut-être l'avoir aussi, puisque il n'est pas non plus un surhomme, au sens où le miracle, ça n'a pas été son fait. Et, en parlant du miracle... Il s'est fait mal. Dans les bras du Père, tout va bien. Et je me suis dit que, puisqu'il n'avait pas fait ce miracle-là, il y avait pourtant un autre miracle tout à fait rare dans la Bible, et c'est là que j'ai commencé à creuser mon troisième trou. Le miracle, on le voit dans Luc, et vous le savez aussi bien que moi, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait, donc chapitre 1, verset 5, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et vous savez, le premier miracle et le seul de la vie de Jean-Baptiste, c'est qu'il est né alors qu'il ne devait pas naître. Ses parents étaient vieux. Et en plus, Élisabeth était stérile. Donc même du temps de leur jeunesse, ils n'avaient pas réussi à avoir un enfant. Et ce miracle caché, en quelque sorte, parce qu'il a fallu ce miracle-là pour que Jean-Baptiste vienne, soit le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, et puisse être un exemple pour nous, bien qu'il n'ait point fait de miracle, qu'il le placerait trop haut pour nous, justement. Et c'est là que mon troisième trou, je me suis dit, mais ce miracle-là, il doit en cacher un autre. Puisque ses parents étaient vieux et sa mère était stérile, et pourtant, il y a eu cet enfant. Y a-t-il d'autres cas de parents stériles qui ont donné dans la Bible naissance à un enfant? J'ai cherché beaucoup. J'ai demandé à Yann un moment parce que j'étais un peu perdu. Et il a confirmé ce que j'avais trouvé. Il n'y a dans la Bible que 7 cas de femmes stériles qui ont un enfant. 7 sur l'immensité, je m'attendais à plus. Et sur ces 7, on va en enlever 2 tout de suite. C'est Samson. Samson, sa mère et son mari Manaa n'arrivaient pas à avoir d'enfant, mais ils en ont eu un. Mais dans ce cas-là, ils étaient encore jeunes et Manaa, lui, de son côté, n'avait pas d'autres enfants, d'autres épouses. Donc, j'ai enlevé cette stérilité-là parce qu'elle pouvait être très bien des deux côtés et elle n'est pas indiquée formellement. Et l'autre, c'est la Tsunamite dans 2 Rois, chapitre 4, verset 14 et tout à la suite. Vous savez, cette Tsunamite qui vit, qui n'a pas d'enfant et qui demande à Élisée de lui faire un enfant. Excusez-moi. Enfin, vous m'avez compris. C'est de permettre que Dieu intervienne pour qu'elle ait un enfant. Et elle a cet enfant meurt très vite, et cette femme revient pleine de foi. Et Élisée, au nom de la promesse que Dieu avait faite qu'elle aurait un enfant, mais viable, ressuscite cet enfant. Mais là encore, il n'est pas dit que la femme est stérile, il est dit qu'elle était avec un mari très vieux et qu'il n'avait pas pu avoir d'enfant. Donc, on n'est pas dans le trou que je creuse d'une stérilité donnée et dite. Et donc, les 5 qui restent, je supprime déjà celle de Zacharie et Élisabeth, il m'en reste 4. Et vous allez voir, c'est très très curieux. Le premier, vous le connaissez aussi, c'est Abraham. Abraham et sa femme Sarah, il est dit, n'avaient pas d'enfant. Et quand Dieu vient faire la promesse à Abraham, les deux, Abraham d'abord et Sarah ensuite, rient à pleines dents, c'est marqué. Ils rient en disant, mais attends, on a 100 ans et 99 ans, l'un comme l'autre, mais c'est impossible. Tu me fais des belles promesses, mais ce n'est pas jouable. Alors, Abraham a eu d'autres enfants, vous connaissez les histoires, mais avec sa femme, ce n'était pas possible. Là, on a vraiment un cas de stérilité plus la vieillesse qui est fait qu'on rentre en plein dans ma recherche. Qui va naître de cette naissance miraculeuse? Car c'est une naissance miraculeuse. Il va naître Isaac. Isaac qui va être l'image du sacrifice innocent, puisqu'on demande de l'amener et de le tuer au nom pour l'amour de Dieu. Heureusement, la main de Dieu arrête Abraham. Curieusement, quel est le deuxième cas de miracle d'une naissance malgré une stérilité? C'est Isaac. Ça continue. Isaac, avec Rebecca, n'arrive pas à avoir d'enfant. D'ailleurs, Rebecca en est très, très, très meurtrie. Et finalement, par intervention de Dieu, elle va avoir un enfant, alors qu'elle ne pouvait pas en avoir. Et que Isaac, lui, en avait. Qu'elle va avoir 2 enfants, Ésaü et Jacob. D'accord ? Évidemment, c'est Jacob qui nous intéresse. Qui est Jacob ? Jacob, c'est l'homme qui a vu Dieu en face, qui a combattu Dieu et qui est resté vivant après ce combat. Deuxième naissance miraculeuse. La troisième naissance miraculeuse, je vous le donne en 1000, c'est qui ? Eh bien, c'est justement Jacob qui va épouser Rachel, qui est sa cousine. D'ailleurs, tout ça est un peu compliqué. Et à nouveau, rebelote, ça ne marche pas. Alors que ça marche avec Léa, etc. Avec sa femme, Rachel, ça ne marche pas. Re-intervention divine, re-miracle absolu sur une femme stérile. Naissance de Joseph. Puis là, même de Benjamin qui va suivre. Donc sur les 5 cas de la Bible, 3 sont sur les fondateurs du peuple juif, du peuple de Dieu. Abraham donne Isaac, Isaac donne Jacob, Jacob donne Joseph. Et Joseph, vous savez ce qui se passe, c'est lui qui va conquérir le monde, en quelque sorte, puisqu'il va être le chef de l'Égypte, en dessous du pharaon qui lui donne toute sa confiance. Il triomphe de ce monde-là, et pourtant, au début, quand ses frères veulent s'en débarrasser, il est vendu pour quelques pièces d'or. Et on arrive donc à cette chose étonnante pour moi. Pourquoi Dieu a-t-il dû passer par 3 miracles énormes de donner la vie à un enfant par son intervention, parce que ses femmes étaient stériles? Il aurait pu choisir des femmes qui n'étaient pas stériles. D'ailleurs, tous ces hommes-là ont eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Mais la lignée, elle, était stérile. Et c'est d'autant plus étonnant quand on lit les promesses qui ont été faites à Abraham. Donc le premier de cette lignée, donc dans Genèse 15. I am sorry for the English people, but I can translate. It's épouvantable. Mais bon, les quelques... Michel Ruth est bilingue, elle vous fera un raccourci après. Et même avec les gestes, ça ne marche pas. Je suis désolé. Donc, Abraham. Non, je vous dis ça parce qu'il me regarde avec des grands yeux. C'est ça qui me touche beaucoup, alors que... Il doit attendre que je traduise à un moment ou l'autre. Donc, Abraham. Quelle promesse? Oui. D'accord. Alors, peut-être en fin de parcours, voir comment il arrive à... Ça serait un bon exercice à faire le résumé. Abraham, Genèse 15, versets 1 à 4. Que dit-il Dieu à Abraham? Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa en justice. Donc à un homme vieux qui n'a pas d'enfant avec une femme vieille, il lui dit, ce sont les étoiles. Et deuxième chose, un peu plus loin au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses, et toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Donc, Dieu a fait une promesse à un homme dont, dès le premier mariage, il y avait déjà un bug sur la descendance possible. Et ce bug s'est répercuté sur 3 générations. Et la quatrième génération, c'est celle de Joseph, qui va permettre, en accueillant ces 3 générations, de devenir en effet innombrables, au point que les Égyptiens vont les faire partir tant ils prenaient de place. Car il faut bien se dire qu'au début, quand ils arrivent en Égypte, que Joseph les accueille, ils sont 70 de la famille. Après, il y a des serviteurs, mais ils ne sont que 70. Et donc, vous voyez que cette promesse de Dieu est faite de façon totalement irréelle. À une personne, tu seras innombrable et tu viendras dans un pays dont tu seras chassé pour occuper un autre pays dont tu seras le propriétaire. Et en plus, cette personne va connaître, génération en génération, d'énormes problèmes de reproduction, si je puis dire. Et à chaque fois, il devra intervenir. C'est quand même extraordinaire que Dieu, qui est tout-puissant, ait choisi ça comme méthode de mise en place de son peuple. Et, alors là, je suis au fond de mon troisième trou. Nous sommes hier soir, ce matin, j'ai mes 3 trous qui m'intéressent en tant que tel, mais je ne vois pas le lien. Et je suis très inquiet. Et je vais téléphoner à Emmanuel ou à Daniel et leur dire, je ne peux pas faire la prédication parce que je suis tombé sur des fausses pistes. Et ce matin, je lis « dans Genèse 50, 19, 21, ce qui va être la réponse à la question que je me pose depuis le début. Et vous voyez un peu tous les chemins que Dieu prend pour répondre à cette question, comme il a pris pour que son peuple soit le peuple élu, mais qu'il soit nombreux comme les étoiles du ciel. 50, nous sommes à la fin de la vie de Joseph, donc la fin de la quatrième génération. Ses frères viennent le voir et ils sont très inquiets parce qu'ils savent qu'ils ont fait un sale coup, même s'il les a accueillis depuis, il n'y a pas de problème. Il se dit, une fois que Joseph va mourir, il va y avoir une vengeance qui va tomber sur nous. Et voici, je vous le lis, chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, oui, donc parce que Jacob vient de mourir, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous l'avons fait. Non, je me suis trompé, c'est pas Joseph qui est en train de mourir, c'est donc Jacob. Et ils ont peur que la figure du père n'étant plus là pour les protéger, Joseph prenne le dessus et se venge. Excusez-moi. Ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, bon, Jacob. Oh, pardonne le crime de tes frères, leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Suis-je à la place de Dieu ? Que ferait Jésus à ma place ? Mais elle est là, la réponse. C'est que se poser cette question, c'est absurde. On ne peut pas savoir ce que ferait Jésus à notre place, parce que d'abord, nous ne sommes pas Jésus, et nous sommes à des millions de milliards de kilomètres de la connaissance des plans de Dieu. Donc la bonne question de se poser, ce n'est pas « que ferait Jésus à ma place ?», mais c'est celle que pose Joseph. Suis-je à la place de Dieu pour décider ce que je dois faire, à vous mes frères, et nous, dans notre vie, suis-je à la place de Dieu pour dire « ah, là je pense qu'il faut faire ci, là je pense qu'il faut faire ça ». Impossible. Regardez ce qu'a fait Dieu. Nous, à la place de Dieu, on dit à Abraham, d'accord, on en choisit un, ça sera toi qui va être le père de mon peuple, mais je ne vais pas lui choisir une femme stérile, qui ne va pas lui donner naissance à un enfant qui va choisir une autre femme stérile, qui va donner naissance à un enfant qui va donner une autre femme stérile, qui ensuite va les amener dans un pays où ils vont être prisonniers pendant 400 ans. C'est absolument inconcevable. Suis-je à la place de Dieu pour croire que je peux avoir une influence sur la vie de mes prochains ? Alors, je vais un peu loin peut-être. Oui, on peut avoir une influence. Et là, je reviens sur mon trou numéro 2. Renoncement à soi-même, courage, obéissance envers Dieu, humilité, zèle. Oui, ça, c'est dans nos gènes, c'est dans nos possibilités. On ne fera pas de miracle, a priori. Ça, oui, ça, c'est dans nos gènes. Mais n'oublions jamais que nous sommes dans les mains de Dieu. Et que le plan, c'est lui qui le fait. Et qu'il faut se mettre sur des centaines d'années pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et de façon tellement compliquée pour nous. Voilà, quand j'ai trouvé ça dans mon troisième trou, j'étais heureux. Parce que soudain, tous mes trous se retrouvaient. Et j'avais de quoi être satisfait et rempli. Et je bénissais Dieu de m'avoir donné cette réponse-là. Néanmoins, pour conclure, il manquait un petit quelque chose. Parce que c'était en même temps avouer ça, c'était aussi une espèce de « je m'en lave les mains ». Les plans de Dieu sont tellement invraisemblables, je ne les comprends tellement pas, que bon, je peux faire un peu de truc, un peu d'humilité par-ci, une bonne parole par-là, un peu de courage, mais bon, je ne peux pas aller tellement plus loin. Et là, on est plutôt dans le mode d'emploi. Faites ceci, faites cela. Et avec Jésus, on n'est pas dans le mode d'emploi. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la conviction intérieure, de la certitude en nous qui dépasse même notre entendement. Et j'ai trouvé une réponse qui me plaît, et ça sera mon mot de la fin, parce que je pense qu'elle recouvre tous les trous qu'on a creusés d'un voile plein d'espérance. Encore une fois, il faut aller à la petite enfance, puisque c'est là que tout se joue. Vous savez bien, vous, tous autant que vous êtes et moi, avec ce que nous sommes, c'est tellement lié à ce que nous avons été petits, ce que nous avons reçu, pas reçu. Et Jean-Baptiste, c'est la même chose. Regardez dans Luc 1, 40 et 1, 44. Là, peut-être, on peut la voir, et en français et en anglais, parce que je veux qu'on reparte avec ça. Enfin, je souhaiterais. Donc, 1, 41, 44. Donc, c'est le moment où Élisabeth reçoit la visite de Marie. Les deux femmes sont enceintes, une beaucoup plus que l'autre, puisqu'il y a 6 mois de différence. Et Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » L'enfant a tressailli d'allégresse. À l'intérieur, il n'était même pas né. Il reconnaît son maître, son Seigneur, il tressaillit d'allégresse, il est plein de joie. La voilà la clé pour comprendre, admettre les plans de Dieu qu'on ne soupçonne pas et pour être humble, courageux, obéissant, plein de zèle. Est-ce qu'à chaque fois, on tressaille de joie quand on est mis en présence de Jésus? Et si on tire le fil un peu, Jésus nous dit, à chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, c'est à moi que vous le faites. Chaque fois que vous avez visité quelqu'un en prison, c'est à moi que vous le faites. Chaque fois que vous allez voir un malade, que vous nourrissez, c'est à moi que vous le faites. Donc, à chaque fois que l'on voit quelqu'un qui est en quelque sorte un enfant de Dieu, est-ce qu'on tressaillit de joie en le voyant? Comme Jean-Baptiste le fait dans le sein de sa mère. Elle est là la clé qui recouvre tout, qui ouvre toutes les portes plutôt. Si nous ne tressaillons pas de joie à chaque fois que nous reconnaissons Jésus quelque part, alors nous ne pourrons rien faire d'utile. Et le « que ferait Jésus à ma place ?» il sera totalement vain si on n'a pas ce tressaillement de joie à chaque fois qu'on le voit dans ce qu'il nous donne à voir de sa présence. Par les frères, les sœurs, par la nature, par tout ce qui fait notre quotidien. Voilà, c'est ce que... J'espère que vous n'êtes pas enfoncé trop profond et que j'ai réussi à vous faire ressortir de ces différents trous. Comme moi, en tout cas, j'en suis ressorti et qu'on puisse avoir cette faculté miraculeuse. Car ça, c'est le vrai miracle. Il est dit que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, que nous, sans doute, nous n'en ferons pas. Mais si chaque fois, on tressaille de joie, quand on voit Jésus, ou quand on sent l'image de Jésus dans le monde qui nous entoure, alors, croyez-moi, le miracle, on est en plein dedans. Merci.